Bonne année 2013. Vous avez remarqué quand même que nous avons survécu à la fin du monde. Hein, on a eu chaud. Ceci étant, la fin dans le monde existe encore et continue, malheureusement. Ça, je crois qu'on ne pourra pas l'arrêter tout de suite. Et quoi d'autre? Eh bien, j'ai quand même appris. Faites attention parce qu'au mois de février, enfin, la NASA vient d'annoncer l'arrivée d'un astéroïde. Mais là, c'est sérieux. Hein. C'est la NASA, c'est pas les Mayas quand même. Un astéroïde de à peu près 400, tu connais ça, Alain? La NASA vient d'annoncer donc le passage d'un astéroïde qui fait à peu près 450 mètres de diamètre. Oui, c'est pas rien. Hein, ça va être un. Si ça tombe sur la Terre, ça dépend comment ça tombe, mais ça peut effacer le duché du Luxembourg. Hein, c'est rien que ça. Si ça tombe comme en 1908, bon, ça c'est un brushing, hein, ça va éliminer une forêt, hein, Sibérie ou ailleurs. Bon, enfin, ça peut être très embêtant. Alors, cet astéroïde est prévu, parce qu'on connaît la trajectoire, pour passer à peu près à 27 000 km de la Terre. Alors, ça fait rigoler quand ils disent ça va tomber. Non, 27 000 km, c'est pas à côté, c'est à côté. Dedans, c'est dedans. Voilà. Alors, ceci, il y a des corrections, hein, il y a des erreurs possibles. Il faut tenir compte de pas mal de choses, mais enfin, n'ont pas l'air beaucoup plus inquiet que ça. Ce qui est en revanche intéressant, semble-t-il, c'est qu'on pourra l'observer à la jumelle. Donc visible à la jumelle. Oui, quand même, à cette distance, ça se voit. Voilà. Donc préparez-vous, hein, je pense que ça. Alors, non, ne me demandez pas à quelle heure, ni. Je sais que c'est en février, c'est bientôt. Voilà. Pour bientôt. Bon, vous savez que les astéroïdes sont en permanence surveillés. Et d'ailleurs, il paraît que pour celle-ci. Pour celui-ci, puisque c'est un astéroïde, il aurait été détecté par un astronome amateur. C'est pas les surveillances systématiques des professionnels, et en particulier de la NASA. Voilà. Donc le ciel est sous surveillance. Il y a une police du ciel qui regarde tout ça, heureusement d'ailleurs. Voilà, ça me conduit donc tout naturellement à vous parler. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même la vie est difficile maintenant. On est au courant de tout. Donc le moindre astéroïde qui passe, ça y est, on alerte. Sans compter les codex, les mayas et toutes ces choses-là. De sorte que le ciel est convoqué un petit peu n'importe quand, n'importe comment. Mais nous avons quand même des gens sérieux qui en parlent. Alain Le Cavalier est de ceci. Il est depuis déjà 20 ans. Il en a pris pour 20 ans à l'IAP. Hein, c'est ça. Donc 20 ans, ça commence à compter. Il y a fait sa thèse avec Alfred Vidal-Majar, que vous connaissez aussi, sur la première exoplanète, en fait. Enfin, ce n'était pas une exoplanète, c'était un système planétaire, c'était Bêta-Pic. Et on m'a dit, pour la petite histoire, que c'était le premier intervenant à avoir été filmé en 2004 par nos collègues ici du CERIMES. Donc, vraiment, c'était bien. Et c'était une conférence sur les évaporations des exoplanètes. Voilà, il y a une obsession chez Alain, les exoplanètes, évaporation, transit, etc. Mais exoplanètes. Donc, après sa thèse, tu ne m'as pas dit quand, ça doit faire moins de 20 ans quand même.
Un peu moins.
Voilà. Départ en Inde, voyage en Inde pendant un an.
Travail en Inde pendant un an. Voyage.
En radioastronomie, dans l'espoir, donc si j'ai bien compris, de détecter des exoplanètes en radioastronomie, c'est n'importe quoi, parce que je crois pas que vous en ayez trouvé une comme ça, mais bon. Ensuite, déçu, il revient d'Inde, enfin je dis déçu, c'est peut-être pas vrai, mais tu pourras corriger, pour aller à Baltimore, auprès de la NASA. À Baltimore, c'est là qu'on pilote non seulement le télescope de Hubble, mais aussi beaucoup d'autres missions, dont en particulier FUSE, qui est une mission qui a été vraiment un des moments de gloire du département dirigé par Alfred. FUSE, c'est Far Ultraviolet Satellite.
Spectroscopique.
Spectroscopique Explorer. Il faisait la spectroscopie dans l'infrarouge lointain, dans l'ultraviolet lointain. Voilà. Et donc retour vers 1999 à l'IAP, où il continue à travailler avec nous pour notre délectation. Et il travaille toujours sur l'évaporation des atmosphères planétaires. Et il va nous parler ce soir de ce sujet-là. Mais il ne fait pas que de la science et de la science pointue. Il s'est intéressé aussi à la diffusion des connaissances. En particulier, ce livre que je vous recommande, voilà, qui est tout à fait extraordinaire, parce qu'il est fait en collaboration avec un dessinateur. Alors, rien que les dessins sont déjà remarquables. Ils se marient très bien avec le texte. Le livre s'appelle « Le ciel et les étoiles sans complexe ». Et si je me souviens bien, il a obtenu un prix, le prix du livre du Festival d'astronomie de Haute-Maurienne. C'est ça, il y a
exactement,
deux ou trois ans.
Il y a deux ans et demi.
Voilà. Bon, et ben maintenant je vais passer la parole à Alain. Merci. Ah non, 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 j'ai pas fini. Il me manquait quelque chose, c'était de vous montrer ma carte de vœux. Bonne année. Merci.
Bonsoir, merci Daniel pour cette longue présentation. Alors je vais préciser, je ne suis pas parti horriblement malheureux d'Inde, je suis parti malheureux de partir. Parce que finalement c'était un séjour, alors pas pour voyager, mais pour participer au développement d'un radiotélescope qui donc fait des observations en radio, dans les longueurs d'onde radio, en radioastronomie. Et je participe à des projets qui cherchent à détecter les émissions radio des exoplanètes. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'espère que nous aurons bientôt des détections positives en radioastronomie. On a déjà des signes de choses intéressantes. C'est encore marginal, c'est vrai que c'est difficile. Mais peut-être que dans quelques années, j'aurai l'occasion de venir vous reparler des détections des exoplanètes en ondes radio. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai accepté le défi de vous parler des exoplanètes et d'essayer d'en faire une sorte de survol, de revue de ce sujet qui n'existe que depuis une vingtaine d'années. Daniel a rappelé que j'ai commencé ma thèse il y a un petit peu moins de 20 ans, disons une vingtaine d'années de cela. Quand j'ai commencé ma thèse, il n'y avait aucune exoplanète de connue. Donc c'était un sujet inexistant dans l'astronomie contemporaine. 20 ans plus tard, les choses ont complètement changé, à tel point que, oui, on peut même en faire un sujet de conférence, et à tel point surtout que je ne pourrais absolument pas tout vous dire ce que l'on sait sur ces objets en peut-être une heure de conférence. Il a fallu que je fasse des choix. Et j'ai donc choisi de survoler quelques questions qui me semblaient intéressantes, mais ce ne sera pas un exposé exhaustif de ce que l'on connaît sur ces exoplanètes. Exoplanètes ou planètes extrasolaires, alors je vais sans doute utiliser les deux termes. Initialement, il y a peut-être une vingtaine d'années, je préférais plutôt planètes extrasolaires, je trouve que ça désignait mieux l'objet, donc de planètes, des planètes, comme celle du système solaire, exo, extrasolaire, en dehors du système solaire, mais souvent on utilise le terme exoplanète, qui est une sorte de raccourci de planète extrasolaire. Et finalement, avec le temps, je m'y suis habitué et je l'utilise sans doute assez souvent. Alors pour commencer, je me suis dit faut partir du connu. Et le connu, vous le savez sans doute tous ici, ce sont les planètes du système solaire. Finalement, ce que je montrais il y a une vingtaine d'années quand je parlais de ce sujet, les seules planètes que l'on connaissait à l'époque, et vous voyez, même le dessin, cette figure date d'avant 2006, quand on a enfin réalisé que Pluton n'était pas une planète comme les autres, qui est un objet un peu différent. Mais bon, vous voyez les planètes du système solaire, telles que vous les connaissez sans doute ici. Je tiens à les montrer parce que c'est vraiment important de réaliser ce à partir de quoi nous partons et quelle est la connaissance que nous avons de ces planètes avant d'aller explorer ces mondes. Et vous allez voir, c'est peut-être la chose que j'aimerais que vous reteniez de cet exposé, allez voir l'extrême diversité des exoplanètes. Ces planètes, elles tournent autour du Soleil. Et j'ai fait cette petite animation pour vous montrer, de façon un peu dynamique, de voir comment elles se déplacent autour du Soleil. Alors, elles se déplacent sur des ellipses, quasiment des cercles. Et vous avez donc tout près du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, sur la petite orbite bleue, là, vous voyez, qui fait le tour du Soleil en un an, comme vous le savez bien, un an. Mars, un peu plus loin, Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, qui va nous servir de référence. On va mesurer les masses des exoplanètes. On va dire qu'elle fait tant de fois la masse de Jupiter, parce que c'est la planète la plus massive et la planète qui domine en masse le système solaire. Donc Jupiter qui fait le tour du Soleil en 12 ans. Finalement, c'est même la plus proche des planètes géantes du système solaire, qui fait le tour en 12 ans. Saturne, c'est Jupiter ici, 12 ans. Saturne en 30 ans, Neptune, Uranus. Et quand il y a 20 ans, on parlait de rechercher des exoplanètes, c'est exactement ce que l'on cherchait à trouver. On pensait trouver des planètes comme la Terre qui tournent en quelques années ou quelques mois, et puis des planètes géantes qui tournent en une dizaine d'années ou plusieurs dizaines d'années. Ces planètes du système solaire, on peut dire qu'il y a vraiment deux catégories extrêmement distinctes. Il y a les planètes telluriques, planètes solides, comme la Terre, d'ailleurs vous le savez, si je ne m'enfonce pas, c'est parce que nous sommes sur une planète solide. Et donc vous voyez ici Mercure, Vénus, la Terre, Mars. La Terre et Vénus sont deux planètes assez semblables en taille, de composition atmosphérique assez différente, mais en taille, en masse, c'est une planète assez semblable, et ce sont les plus grosses des planètes telluriques. Donc la Terre, c'est quand même une belle planète tellurique. Et l'autre catégorie, les planètes géantes gazeuses, avec Jupiter, Saturne, avec ses anneaux, Uranus, Neptune, extrêmement différent. Il s'agit de planètes géantes gazeuses, pas de sol solide, et la plus grosse ici, Jupiter, fait 318 fois la masse de la Terre, Saturne 100 fois la masse de la Terre, et même les plus petites, Uranus et Neptune, font 14 et 17 fois la masse de la Terre. Si je vous donne ces chiffres, c'est pas pour qu'on les retienne. Quand j'étais en quatrième, je croyais qu'il fallait, pour devenir astronome, il fallait absolument connaître tous ces chiffres par cœur et les distances et les périodes. Et donc j'avais appris le tableau qu'on m'avait donné en quatrième par cœur en me disant si un jour je veux devenir astronome, il faut absolument que je connaisse ce tableau. Depuis, j'ai réalisé que c'était une hérésie. C'est pas important de connaître les distances, les tailles, etc. Ce qui est important, c'est de comprendre l'idée que l'on peut tirer de ces nombres. Et l'idée que je veux que vous reteniez ici, c'est que les plus petites font 14 et 17 fois, donc une bonne dizaine, presque une vingtaine de fois la masse de la Terre. Ce sont les plus petites. Et les plus grosses des planètes telluriques font une fois la masse de la Terre. Il y a vraiment un vide entre ces deux catégories. Ce n'est pas un continuum de petites, moyennes, plus grosses, moins grosses, plus en plus grosses, jusqu'aux géantes. Il y a vraiment deux catégories extrêmement différentes de planètes dans le système solaire. Les petites planètes solides rocheuses qui tournent en quelques mois ou quelques années autour du Soleil, et les planètes géantes gazeuses, massives, qui tournent en une dizaine d'années ou plusieurs dizaines d'années autour du Soleil. Et toutes ces planètes, elles tournent autour du Soleil. Et le Soleil, c'est ni plus ni moins une étoile ordinaire. Une étoile ordinaire comme celle qui peuple le ciel. Et si on sait, on réalise combien le Soleil est ordinaire, est une étoile ordinaire dans la galaxie, quand on lève les yeux au ciel et qu'on voit cette image, on se dit, mais y a-t-il des planètes, y a-t-il d'autres mondes autour de ces étoiles ? C'est une question donc qui était posée depuis plusieurs centaines d'années et auquel on n'avait pas de réponse jusqu'au milieu des années 90. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, véritable révolution, on est passé donc de 8 planètes autour d'une seule étoile, le Soleil, connue, 8 planètes connues. 20 ans plus tard, on peut dire « il pleut des planètes » pour reprendre le titre d'un livre d'Alfred Vidal-Majar. On connaît aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, les chiffres sont d'aujourd'hui. Il faut les changer sans cesse, d'ailleurs, parce que la vitesse de découverte est vertigineuse. On connaît aujourd'hui 854 planètes. Alors, le chiffre, à nouveau, n'est pas important. Ce qu'il faut savoir, c'est près de 1000 planètes. Un peu moins d'étoiles autour desquelles tournent des planètes, parce qu'on connaît des systèmes multiples. On connaît plus d'une centaine d'étoiles qui ont plusieurs planètes. Sachant que les systèmes non multiples, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont qu'une seule planète, ça veut dire qu'on n'en a détecté qu'une. Probablement, ils en ont plus. Alors ce soir, j'ai choisi d'aborder trois questions. La première question, premier sujet, c'est les surprises. En fait, les premières découvertes, vous allez le voir tout de suite, dès 1995, les premières planètes que l'on a découvertes étaient totalement inattendues. Vraiment pas du tout prédites par les modèles théoriques, les élucubrations des uns et des autres. On avait été vraiment très imaginatifs, mais la nature l'a été beaucoup plus que nous. Vous allez voir combien on a de planètes extrêmement surprenantes par rapport au schéma qu'on avait en regardant le système solaire. Alors évidemment, dans cette recherche aussi, il y a un peu une quête de soi-même, et on aimerait bien trouver une planète qui ressemble à la Terre. On aimerait bien trouver une planète habitable, ou même peut-être voir habitée. Et on va aborder cette question. On ne connaît pas aujourd'hui de planètes que l'on pourrait qualifier de sœurs jumelles de la Terre, qui ressembleraient en tout point à la Terre, mais on connaît des planètes qui y ressemblent assez. Alors je les ai qualifiées de cousines de la Terre, pas des sœurs jumelles, mais plutôt des cousines. Et puis je terminerai par un sujet qui m'est cher, parce que c'est le sujet sur lequel je travaille, qui est l'observation détaillée de certaines de ces planètes pour en caractériser non pas uniquement la masse, le rayon, mais aussi l'atmosphère. C'est de voir de quoi elles sont composées, quelle est la température qui y règne, etc. Donc vous allez voir que pour quelques objets, non seulement on est capable de détecter ces objets, mais en plus on est capable de les caractériser avec une foultitude de détails qui sont même extrêmement surprenants. Si il y a simplement 10 ans, on connaissait une petite dizaine d'exoplanètes, j'avais dit « Oh, on est capable de mesurer ça, ça et ça », probablement que nombreux de mes collègues m'auraient dit ça va pas, on va pas mesurer tout ça. Enfin, réalise combien ces planètes, on sait à peine qu'elles existent, alors mesurer tout ça. Eh bien, si, en faisant preuve d'astuces, vous allez voir quelques-unes de ces astuces, on est capable de faire des mesures extrêmement précises sur des éléments de détail de quelques-unes de ces planètes. Alors maintenant, on va commencer par l'histoire par le début. Le début, c'est la recherche des exoplanètes, comment on les a détectées. On dit souvent que les premières exoplanètes ont été découvertes en 1995. Je pense que c'est plus juste de rappeler que les premières exoplanètes ont été découvertes en 1992 autour d'un objet qui est un pulsar, donc qui n'est pas une étoile ordinaire. Et voilà, c'est le schéma permet de comprendre le phénomène. Vous voyez donc là le pulsar, la planète qui tourne autour. Le pulsar, c'est une étoile morte, une étoile qui a explosé, qui a expulsé l'essentiel de ses couches de gaz, et pour lequel il reste juste un résidu d'explosion qui, dans certains cas, peut tourner très vite sur lui-même. Et si l'angle du champ magnétique n'est pas le même que l'axe de rotation, on peut voir des flashs à chaque rotation, donc vous voyez, un peu comme un phare qui tourne sur lui-même très vite et qui, à chaque tour, vous envoie un bip d'onde radio. Vous voyez, finalement, Daniel, au début, disait « qu'est-ce qu'on fait en radio avec les exoplanètes ?» Eh bien, en radio, on a découvert les premières exoplanètes en utilisant les bips du pulsar qui tourne sur lui-même et qui vous envoie, donc détecté en radio, des bip, 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 d'une manière extrêmement régulière. La période de rotation du pulsar sur lui-même. Ce qu'ont fait Wolfram et Frail, les travaux qu'ils ont fait en début des années 90, publiés en 1992, c'est qu'ils ont mesuré le temps d'arrivée du bip. Et j'ai dit, la planète tourne autour du pulsar. Ça a choqué personne, personne s'est levé en criant scandale. Vous auriez pu, parce que c'est pas la planète qui tourne autour du pulsar. En réalité, la planète tourne autour du pulsar parce qu'elle est attirée par le pulsar, c'est l'attraction gravitationnelle. Mais action-réaction, la planète attire aussi le pulsar. Et donc, ce qui se passe, c'est pas la planète qui tourne autour du pulsar ou de l'étoile, mais l'ensemble planète étoiles qui tournent autour du centre de gravité, parce que les deux s'attirent. Alors, évidemment, l'attraction d'une étoile sur une planète est beaucoup plus importante que l'attraction d'une planète sur l'étoile. La masse de l'étoile est très très large. Mais quand même, il y a un petit peu. Et le résultat de ça, c'est que, vous voyez l'ensemble qui tourne autour du centre de gravité, quand la planète tourne, eh bien le pulsar ou l'étoile tourne aussi. Et si on est capable de détecter ce mouvement, on est capable de dire qu'il y a une planète qui tourne autour de l'objet, de pulsar ou de l'étoile. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on mesure le temps d'arrivée des bip, 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 les faisceaux d'ondes radio qui arrivent vers vous. Et comme il arrive pas à une vitesse infinie, à une vitesse finie, bip, 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 quand le pulsar se déplace vers vous ou s'éloigne de vous, le temps d'arrivée des bips va changer. Si je m'approche de vous, je vais vous envoyer des bips avec ma main. Vous allez voir, ça va être tout de suite. Je vais vous envoyer trois bips avec ma main. Bip, bip, bip. Vous voyez, les bips, ils sont écartés d'une certaine distance. Si je m'approche de vous en envoyant les bips, bip, bip, le deuxième bip, le deuxième et le troisième bip, quand je l'ai envoyé, je suis plus près, il va arriver plus tôt. Et donc, vous allez entendre bip, 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 bip. Si je recule, bip, 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 vous allez entendre bip, bip. Puis l'autre, le temps qu'il part de loin, bip. Donc, vous allez entendre, si je suis le pulsar autour duquel tourne une planète, vous allez entendre bip, 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 bip. Et voilà, on compte le temps d'arrivée des pulsars et on est capable de dire qu'il y a une planète qui tourne autour de ce pulsar. C'est exactement cette courbe-là. Alors c'est une courbe un peu compliquée parce que finalement il n'y a pas une seule planète, mais il y a trois planètes. Avant de passer à la diapositive suivante, il faut que je vous prévienne. Vous risquez d'être déçus. En fait, peut-être qu'on aurait dû le mettre dans l'intitulé de la conférence, on serait beaucoup moins nombreux ce soir. J'ai aucune image à vous montrer de ces exoplanètes. C'est terrible de faire une conférence sur les exoplanètes, sur un sujet aussi intéressant de l'astronomie, et parler d'un sujet sans avoir des images pour l'illustrer, en astronomie où on a tellement de si belles images. Je pense que ça attirerait pas beaucoup les foules. Donc, je dois vous prévenir, malheureusement, je n'ai absolument aucune image de ces exoplanètes à vous montrer ce soir, pour la simple raison que c'est trop difficile. Ces planètes, elles sont très très proches de leur étoile, leur lumière est noyée dans la lumière de l'étoile, et nous sommes aujourd'hui incapables de faire une image d'une étoile. Je vois un monsieur qui fait... Oui, c'est vrai, il y a quelques cas très très particuliers, et il y en a un cas que je connais très bien, puisqu'il tourne autour de Beta Pictoris, justement, mon étoile favorite. Donc, à part quelques exceptions, on voit un petit point brillant, vraiment, pas plus que ça. Nous ne sommes pas capables, donc à part un petit point brillant, pour trois cas, vous voyez, nous ne sommes pas capables de faire des images. Donc je n'ai pas d'image à vous montrer ce soir. Alors, on se débrouille comme ça, on peut vous représenter des schémas avec la taille apparente des planètes, et voilà donc comment on pourrait représenter ce système des trois planètes détectées autour du pulsar PSR B1257+12, les trois planètes ABC, et sur ce schéma, la distance à l'objet est donnée à l'échelle de la distance dans le système solaire, et la taille de l'objet représente la masse de la planète. Ce que vous l'avez bien compris, c'est la masse qui déplace le pulsar qu'on a pu mesurer. Donc on ne connaît que la masse. Et vous voyez que ces planètes qui ont été découvertes pour la planète B et C sont un peu plus grosses que Vénus, un peu plus massives, pardon, que Vénus et la Terre. Et la planète A est à peu près deux fois la masse de la Lune, donc beaucoup plus petite. Donc voilà, trois petites planètes, probablement solides, si on compare aux planètes du système solaire, mais pas d'image pour le confirmer. Ceci dit, évidemment, si on fait un peu preuve d'imagination et qu'on fait appel à des artistes, par exemple comme Philippe Coudray, qui a illustré le livre dont Daniel vous a parlé, on peut demander aux artistes, représentez-nous ce monde tel que nous l'imaginons. Et voilà donc une vue d'artiste, c'est pas une photographie, une vue d'artiste d'une de ces planètes qui tourne autour d'un pulsar. Et voilà donc on l'imagine, une planète solide, puisqu'elle est petite, avec probablement des montagnes, avec le pulsar dans le ciel, et si le pulsar envoie des flots de particules ionisantes et qu'il y a une petite atmosphère, un champ magnétique, des choses comme ça, les spécialistes de la photographie des aurores polaires seront gâtés et ils pourront voir de magnifiques aurores polaires sur ces exoplanètes. Je vois déjà qu'ils sont prêts à acheter leur billet pour y aller. Voilà comment on peut imaginer ces planètes découvertes, donc il y a, vous voyez, publié en 1992, plus de 20 ans maintenant, autour du pulsar PSR 1257+12. Mais ça, c'est un pulsar, c'est une planète résidue de l'explosion d'une étoile, c'est pas une étoile ordinaire comme le Soleil. Donc ça ne nous satisfait pas complètement, ça ne répond pas à notre question qu'on se posait tout à l'heure en voyant le ciel étoilé, mais est-ce que ces étoiles ont des planètes ? Pour répondre à cette question, on a utilisé une technique qui est finalement assez proche de la technique des bip-bip-bip du pulsar. C'est la technique qu'on appelle de vitesse radiale, c'est-à-dire qu'on mesure la vitesse de l'étoile. Et si, comme pour le pulsar, quand la planète tourne autour de l'étoile, en fait c'est l'ensemble qui tourne autour du centre de gravité. Et si on est capable de mesurer la vitesse de cette étoile et de voir que cette vitesse change en fonction du temps, eh ben on est capable de détecter la rotation de la planète autour de cette étoile, enfin l'orbite de cette, mouvement orbital de cette planète autour de l'étoile. Et c'est ce qui a été fait par Michel Mayer et Didier Queloz à l'Observatoire de Haute-Provence, dans le sud de la France. Les résultats qu'ils ont publiés en 1995, et c'est cette courbe-là qu'on revoit ici. Donc, autour de l'étoile 51 PEG, donc la planète s'appelle 51 PEG B, et si on découvrait une deuxième planète, on l'appellerait 51 PEG C, etc. Et voilà donc la vitesse mesurée en fonction du temps, et qui a permis de détecter pour la première fois une planète en orbite autour d'une étoile de type solaire. C'était une surprise absolument incroyable, enfin tout à fait inattendue. Parce que vous avez ici les propriétés de cette planète, et je peux vous assurer que tous les quand cette découverte a été annoncée, tous les astronomes se disaient « Mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est possible, ça ?» Une planète qui fait à peu près la moitié de la masse de Jupiter, qui tourne à 1/20 de la distance Terre-Soleil autour de son étoile en 4 jours. Vous voyez, Jupiter, la plus rapide des planètes géantes gazeuses du système solaire, met 12 ans à tourner autour du Soleil. Eh bien, celle-là, elle le fait en 4 jours. Elle est 20 fois plus proche du Soleil que la Terre du Soleil, de son étoile que la Terre du Soleil. Vous voyez, très 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 proche, et c'était vraiment totalement inattendu. Alors à nouveau, les artistes s'y sont donnés à cœur joie, ont représenté ce système, et on peut imaginer que la vue sur cette planète doit être à peu près celle-ci, puisqu'il s'agit d'une planète à peine moins massive que Jupiter, donc sans doute plus massive que Saturne en tout cas, donc probablement une planète géante gazeuse, très proche de son étoile qui ressemble au Soleil avec des taches. Le Soleil vu de cette planète est 20 fois plus gros que le Soleil vu de la Terre. Hein. C'est quelque chose comme ça. Hein. Voilà l'image qu'on a. Mais surtout, il se pose une question, quand cette découverte a été annoncée en 1995, c'est pourquoi on observe une planète géante gazeuse si près de son étoile ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a quelque chose qui n'avait pas été vraiment prédit par la théorie avant qu'on fasse l'observation. Il se passe que quand la planète se forme, en fait, elle ne se forme pas tout près de l'étoile. Elle peut se former loin, mais en même temps qu'elle se forme, elle interagit avec le disque de gaz dans lequel elle se forme, et ces interactions créent des migrations, c'est-à-dire qu'elle tourne autour de l'étoile, donc peut-être en 10 ou 12 ans, et puis tout en tournant en 10 ou 12 ans, eh bien, elle frotte, elle interagit avec le disque de gaz à partir duquel elle se forme, et elle spirale comme ça, en s'approchant de son étoile, et c'est ce qui est simulé sur une animation qui était faite par Caroline Terkheim, ici à l'Institut d'astrophysique de Paris, où on voit donc une planète qui tourne autour de son étoile qui est là, et on voit l'interaction entre le disque de gaz et la planète en formation, et on voit bien qu'elle peut s'approcher. Donc, ce n'était pas prédit, mais aujourd'hui, on comprend globalement les mécanismes qui font qu'une planète géante gazeuse peut s'approcher de son étoile. Maintenant, on admet qu'il existe des planètes, ce qu'on appelle les Jupiters chaudes, des planètes géantes gazeuses, comme Jupiter, chaudes parce que très proches de leur étoile. Une autre question se pose, elle s'est posée dès les années 90, mais si elle est si près que ça, Est-ce qu'elle ne va pas s'évaporer? Est-ce qu'elle ne va pas chauffer puis perdre tout son gaz? C'est pas évident. Alors, il y a eu des controverses les premiers mois, puis finalement, on dit, oh non, probablement que ça ne doit pas trop se produire. Mais pour en être sûr, il faut observer, c'est ce que nous avons fait ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Nous avons utilisé le télescope spatial Hubble et nous avons pointé une de ces étoiles autour duquel tourne un Jupiter chaud. Un Jupiter chaud qui tourne en 3 jours et demi autour de son étoile et qui tourne très, qui donc est extrêmement proche. Et le résultat de cette observation, il est résumé dans cette diapositive, une image vue d'artiste à nouveau, hein, c'est pas ce qu'on a vu avec le télescope Hubble, c'est Osiris s'évapore. Voilà, c'est comme ça qu'on a intitulé c'est la découverte. Osiris parce que la planète s'appelle HD 209-458b. Et comme je ne veux pas avoir à vous interroger à la sortie pour savoir si vous avez bien retenu le numéro de le nom de la planète dont je vais vous parler jusqu'à la fin. Hein. Ma dernière diapositive sera sur cette planète. Pour ne pas avoir à vous interroger, on a donné un petit nom, Osiris. Et donc, et Osiris, elle s'évapore, elle perd du gaz. Et pour le déterminer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a observé la planète, cette planète, parce qu'elle passe devant son étoile. On l'a observée dans l'ultraviolet avec le télescope spatial Hubble. Et là, à nouveau, c'est une animation. Et quand la planète est passée devant l'étoile, dans l'ultraviolet, on a vu, en quelque sorte, un énorme nuage de gaz qui a caché 15% de la surface de l'étoile. C'est-à-dire que ce nuage de gaz qui est autour de la planète est suffisamment grand pour plus de 10% de la surface de l'étoile. Donc, c'est vraiment un énorme nuage du gaz. Et c'est la preuve que ce gaz s'échappe de la planète et qu'il y a donc une forme d'évaporation de l'exoplanète. Alors, ce n'est pas évident de savoir si c'est beaucoup, beaucoup de gaz ou juste un tout petit peu, parce que dans l'ultraviolet, on est très sensible à des toutes petites quantités de gaz et il se pourrait que ce soit juste un petit filet et qu'on soit capable de le détecter. Alors, pour vraiment quantifier ce phénomène, on a développé des simulations numériques comme celle que je vous montre ici. Et donc, on a simulé avec les ordinateurs, les calculs. En fait, on a introduit la connaissance des phénomènes physiques que l'on a. Et on a essayé de... Finalement, on met tous les ingrédients de la physique, la loi de la gravité, la pression de radiation, l'ionisation, etc. On mélange tout ça dans l'ordinateur, en quelque sorte, un peu comme un cuisinier qui prend son truc et qui mélange tout ça. Et voit le résultat. Et on compare à l'observation. Et si on obtient le même résultat, on dit, ben voilà, on pense qu'on comprend ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui est montré ici. Donc, on a simulé une planète qui perd du gaz, représentée en bleu clair ici. Et quand elle passe devant l'étoile, regardez ce qui se passe là. C'est le calcul du spectre d'absorption. Combien il y a d'absorption au moment où la planète passe devant. En fait, c'est vraiment ça que je veux que vous regardiez. Donc, si j'arrive pas à l'arrêter, vous le regardez le plus vite possible. Ah non, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. Mon entraînement n'était pas suffisant avant de venir. Bon, alors, en fait, on calcule l'absorption, et c'est ça qu'on compare, en fait. J'aimerais bien donner ici l'illustration du mécanisme de la recherche, comment on fait pour faire la recherche, pour interpréter une observation. C'est-à-dire qu'on a des quantités mesurées, puis d'un autre côté, on a ce qu'on appelle le modèle, comment on pense comprendre les choses, et on voit si le calcul de ce modèle correspond à l'observation. Et c'est juste la comparaison des deux, quand elles sont suffisamment concordantes, qu'on conclut que probablement le modèle est juste. Et enfin, quand on dit ça, on dit oh, c'est source d'erreur, hein, parce que suffit qu'il y ait quelques hypothèses qui ne marchent pas bien dans le modèle, et tout est. Eh ben oui, ça arrive souvent, en fait. C'est pour ça que quand on dit ouais, c'est calculé par ordinateur, c'est juste, moyennement les bonnes hypothèses du modèle. Hein. Mais bon. On espère qu'on a bien compris. Et à partir de ces calculs, on peut conclure que de cette planète s'échappe environ 10 puissance 10 grammes par seconde, c'est-à-dire 10 000 tonnes de gaz toutes les secondes. Ça peut vous paraître énorme, mais finalement, pour une grosse planète comme ça, c'est peu. Toute la vie de l'étoile, c'est 1% de la masse. Si vous faites une cure d'amaigrissement et que vous revenez avec 1% de moins de votre masse, ce n'est pas une cure très, très efficace. Voilà, c'est pareil. Donc, ce n'est pas un mécanisme. L'évaporation n'est pas un phénomène qui provoque réellement le changement de la nature de la planète, pour cette planète-là. Ça, on a fait ces travaux au début de la décennie passée. On a continué ces observations sur d'autres objets, et pour une de ces planètes que l'on a observées en 2010 et 2011, deux fois de suite, enfin, 17 mois d'intervalle exactement, eh ben, on a pu voir les premiers signes de ce qu'on pourrait appeler la météorologie des exoplanètes, c'est-à-dire la détection de variations dans l'atmosphère d'une planète en fonction du temps. C'est ça la météorologie, enfin, ce qu'on a l'habitude de qualifier la météorologie, c'est les conditions physiques de l'atmosphère de la Terre qui changent. Eh bien, pour une planète extrasolaire, on a pu observer à deux dates différentes que l'échappement variait en fonction du temps, et à deux dates différentes, il était différent. Et on a fait cette observation en même temps dans les rayons X, et on a vu pour le deuxième cas que ce qu'on appelle un flair, une éruption en rayon X de l'étoile autour de laquelle cette planète tourne. Et on pense qu'il y a un lien entre les deux, et le lien, c'est que si vous avez une éruption dans rayon X, une éruption stellaire, ça provoque un apport d'énergie extrêmement intense sur l'atmosphère de la planète et qui booste l'échappement de l'évaporation de cette planète. Alors il y a une petite animation qui résume un peu ce que je viens de vous dire. Vous voyez donc la planète qui s'évapore très lentement, puis tout d'un coup vous allez voir, il y a une éruption qui ressemble un peu aux éruptions qu'on voit sur la surface du Soleil, et tout d'un coup on a vu une augmentation de l'échappement qui se voit par un grand nuage de gaz qui cache la surface de l'étoile. On a fait aussi des simulations numériques pour interpréter nos observations, et c'est résumé dans cette simulation animée. Vous voyez donc là, ça s'évapore peu, pouf, un rayon, ça échappe beaucoup, et quand ça passe devant, on peut comprendre ce qu'on a vu en termes d'absorption de l'étoile quand la planète passe devant, en perdant énormément de son gaz. Là, c'est pour vous résumer un peu les dernières découvertes concernant l'échappement et la détection des phénomènes météorologiques ou de météorologie de l'espace, on appelle ça aussi, pour l'interaction entre l'étoile et la planète, ce qui a lieu pour le Soleil et la Terre d'ailleurs. Quand vous avez une éruption solaire, il y a des effets sur la haute atmosphère de la Terre, qui par exemple peut se manifester avec des aurores polaires. J'ai commencé cet exposé en vous rappelant ce que l'on connaissait du système solaire, et vous montrer qu'il y avait deux catégories de planètes connues dans le système solaire. Eh bien, pour les exoplanètes, ça ne marche plus, on n'a pas du tout ça. Et surtout, on a découvert un nombre assez important de planètes qui ne sont dans aucune de ces deux catégories, qui sont, je dis, entre 2 et 10 fois la masse de la Terre. C'est pour prendre des nombres, mais pour dire moins massifs que les plus gros, moins massifs que les plus petites des planètes géantes et plus massives que les plus grosses des planètes terrestres dans le système solaire. Eh bien, si vous avez une planète entre 2 et 10 masses terrestres, vous vous dites, cette planète, c'est quoi ? C'est pas évident. Il y a plusieurs possibilités. La première, une vue d'artiste. Première possibilité, c'est qu'il s'agit d'un mini Neptune, une petite planète géante gazeuse. Mais c'est pas la seule possibilité. L'autre possibilité, c'est que c'est une grosse Terre, une super Terre, comme on dit, comme pour les Superman et super héros et je sais pas quoi, super Terre. Donc une grosse planète solide. Pas évident, ça peut être l'un ou l'autre. Et puis les astronomes ont quand même un peu d'imagination, se sont dit c'est peut-être pas la seule possibilité. Il y a deux autres possibilités qui nous viennent à l'esprit. La première, c'est ce qu'on appelle les planètes océans. Ce sont des planètes constituées essentiellement d'eau, et pour lequel donc vous avez 50% d'eau, des océans de plusieurs centaines de kilomètres, et on a de bonnes raisons de penser que ce type de planète doit exister dans la nature. C'est finalement des planètes qui se forment loin et qui migrent, et se forment loin, donc il y a beaucoup de glace, ça accumule la glace d'eau, ça s'approche, ça forme des énormes océans. Ce qui ne peut pas être possible dans le système solaire, parce qu'il n'y a pas eu de migration comme on a vu les migrations qui formaient les Jupiters chauds. Et il y a dernier type de planète auquel nous avons pensé, ici en particulier à l'Institut d'astrophysique de Paris, C'est les planètes que j'ai qualifiées de tonyennes, en fait, les résidus d'évaporation. Vous avez vu tout de suite les planètes qui s'évaporent, qui perdent juste quelques pourcents de leur masse. Mais c'est parce qu'elles tournent en 3 ou 4 jours. Mais si vous avez une planète qui est encore plus près, qui tourne en un jour autour de son étoile, eh bien là, elle va perdre une très très grande fraction, l'essentiel de son gaz. Il va rester plus que le petit cœur rocheux au centre qui fait typiquement une dizaine de masses terrestres, entre 5 et 10 masses terrestres. Donc il est possible qu'il y ait des planètes qui soient des résidus. Et c'est une prédiction, et je crois que cette prédiction, finalement, est en train de se confirmer avec la détection de planètes comme par exemple Corot 7b, une planète qui a été découverte par un satellite franco-européen, Corot. Et cette planète est à peine plus grosse que la Terre. Elle tourne en 20 heures autour de son étoile, moins d'un jour. Un peu plus grosse que la Terre, solide, on a pu mesurer sa densité. Et donc, je crois qu'elle correspond exactement à l'archétype d'une planète résidu d'évaporation, d'une ancienne planète géante gazeuse qui aurait migré, qui se serait approchée trop près de son étoile. Alors, on a plein de vues d'artistes de ces planètes Corot 7b. Voilà une autre vue d'artiste où on imagine qu'il y a une phase très chaude et une phase très froide parce que cette planète est probablement synchronisée. Elle montre toujours la même face à son étoile comme la Lune montre toujours la même face à la Terre. Et donc, il doit y avoir une phase très très chaude et une phase probablement moins chaude. La température exacte n'est pas connue, mais dépend de comment la chaleur se diffuse à l'intérieur de la planète. Il y a une autre planète qui pourrait bien être un résidu d'évaporation, qui ressemble beaucoup à Corot 7b. C'est une planète qui a été découverte par le satellite Kepler, donc une mission comme Corot, mais américaine de la NASA, qui a découvert la planète Kepler 10b. Et cette planète, donc elle tourne elle aussi en une vingtaine d'heures autour de son étoile. Elle fait quelques fois le rayon de la Terre et quelques fois la masse de la Terre, une densité aux alentours de 5 ou 6. Et voilà donc une autre vue d'artiste où on imagine une phase chaude et une phase beaucoup plus froide. On connaît la densité, donc on pense que les matériaux sont des matériaux typiques des roches. Et donc si ce sont des roches chauffées par l'étoile, on peut imaginer leur texture, leur nature. Ça ressemble probablement à quelque chose comme des roches volcaniques, des magmas. Et voilà, les Américains qui sont très forts en réalisation de films pour nous faire imaginer ce qu'on peut voir là-bas. Et donc, la NASA nous a gratifié d'un survol de la planète Kepler 10b. Vous voyez donc cette planète avec ces roches volcaniques fondues par l'étoile très proche, planète qui est probablement le résidu de l'évaporation d'un ancien Jupiter chaud. Ça, c'est pour les planètes très, très denses, planètes rocheuses. Mais il y a d'autres planètes, entre 2 et 10 masses terrestres, entre 2 et 15 masses terrestres, qui sont beaucoup moins denses. Et par exemple, il y a la planète GJ1214b, qui a une densité de 1,8. Donc là, ce n'est pas une planète constituée essentiellement de silicates et de choses comme ça. Et là, ça pourrait bien être une planète océan. Une planète océan dont la structure serait un noyau et un énorme océan de plusieurs centaines de kilomètres, et plus grosse que la Terre. Voilà le schéma des planètes océans qui ont été imaginées par les gens de Nantes et d'Orsay, autour d'Alain Léger et de Sautin. Il y a un autre type de planète qui a été imaginé, c'est les planètes carbone. Il faut savoir que dans le système solaire, les planètes rocheuses, la physique est dominée par le silicium et l'oxygène. Donc on a une planète riche en silicates. Voilà une planète comme la Terre. Mais dans certains nuages interstellaires, etc., les rapports d'oxygène et de carbone sont différents. Et il y a plus de carbone que d'oxygène. Et dans ce cas-là, la planète qui va se former ne sera pas dominée par le silicium, mais par le carbone. Et on a donc calculé la structure d'une planète pour laquelle il y aurait plus de carbone que d'oxygène, qui est totalement différente de la structure d'une planète silicatée, comme la Terre. Et voilà la structure qui a été imaginée. Et on a donc fait des vues d'artistes. Alors vous avez finalement une planète charbon, une grosse boule de charbon, mais plus intéressant, c'est que à l'intérieur, la densité est très élevée, etc. Les gens ont imaginé qu'il y avait même énormément de diamants. Donc on a appelé ça aussi les planètes diamants, ce qui fait tout de suite rêver. Ce qui a fait rêver mon épouse également, mais je lui ai dit non, ne t'affole pas. Malheureusement, on ne va pas pouvoir y aller de sitôt. Donc il y a une ou deux planètes pour lesquelles on imagine que, identifiées aujourd'hui, comme par exemple autour de 55 Cancri, peut-être que cette planète est une planète dominée par le carbone, une planète diamant pour les plus optimistes. Voilà une autre vue d'une planète diamant. Et je vous ai parlé de Kepler très rapidement. C'est un satellite de la NASA qui observe plusieurs centaines de milliers d'étoiles en permanence, toujours dans la même direction, et qui mesure la luminosité de ces centaines de milliers d'étoiles en permanence, et qui voit donc quand une planète passe devant son étoile. Parce que ça fait une petite occultation. Et bien, cette mission a découvert plusieurs dizaines de planètes, et j'ai choisi de vous en montrer trois systèmes qui me semblent extrêmement intéressants. Le premier, c'est le système autour de Kepler-11, donc le 11e système autour duquel Kepler a découvert des planètes. Alors, voilà à nouveau un petit film réalisé par la NASA pour... Vous voyez, ce qu'on voit, c'est une planète, une étoile, qui clignote, parce que les planètes passent devant. Et on a chaque clignotement et le signe d'une planète qui passe devant, on mesure la période. Et voilà les six planètes qui ont été découvertes autour de cette étoile, donc Kepler-11. Et ces six planètes sont extrêmement surprenantes parce qu'elles sont toutes serrées, dans une orbite très proche les unes des autres, pas largement espacées comme dans le système solaire, vraiment les unes derrière les autres, et toutes dans le même plan. Et d'ailleurs, il faut qu'elles soient dans le même plan pour pouvoir passer devant l'étoile vue de la Terre en permanence. Hein. Donc, un système très plat, très condensé, et voilà une vue synthétique de ce système. Voilà le système solaire avec l'orbite de Mercure, l'orbite de Vénus, pour donner l'échelle de grandeur, et le système de Kepler-11, vous voyez, donc entre l'orbite de Vénus et à l'intérieur de l'orbite de Vénus, vous avez six planètes qui tournent quasiment dans le même plan. Alors quand on mesure, quand on détecte une planète avec Kepler, ce que l'on mesure, c'est combien la lumière baisse quand la planète passe devant, donc on mesure sa taille. On n'a pas sa masse, hein, on n'a que la taille. Mais pour ce système, on a un peu plus que la taille, parce que les planètes sont tellement proches les unes derrière les autres que la gravité, l'interaction gravitationnelle entre les planètes fait que certaines planètes sont en avance, en retard, elles sont poussées par les unes, enfin elles interagissent les unes avec les autres, elles se poussent, vas-y, passe devant, non, vas-y, j'y vais, etc. Et le moment du passage est décalé à cause de la gravité entre la masse, les planètes, et ça permet d'estimer la masse de ces planètes. Alors, pour l'essentiel des planètes Kepler, on n'a que la taille, voilà, les rayons de celles qui ont été découvertes, 7, 6, etc. Il doit y avoir Kepler 10b, vous voyez, qui est toute petite, à peine plus grosse que la Terre, mais beaucoup plus petite que Jupiter. Et puis voilà la taille des 6 planètes Kepler 11. Mais pour Kepler 11, on a aussi la masse, et quelques-unes des planètes Kepler. Et si on a la masse, on a la densité, et ça nous donne des indices de la composition. Voilà ici sur ce diagramme, sur l'axe des X, la masse, sur l'axe des Y, le rayon, puis là, des courbes de densité en fonction de la composition. Voilà, pour la densité de la Terre ici, une planète doit se trouver sur cette courbe-là. Pour une planète avec 90% de roche et puis un peu 10% d'hydrogène, sur cette courbe-là, et 80%, etc. Et donc, vous voyez Uranus et Neptune ici, la Terre là, et bien toutes ces planètes du système de Kepler-11, on peut déterminer qu'il y en a certaines qui sont sans doute très denses. Les Kepler-10, Corot-7 sont sans doute très denses, proches de la densité de la Terre. Et pour Kepler-11e, une planète sans doute très peu dense, contenant essentiellement du gaz. Il y a un autre système qui a fait la une des journaux au moment où il a été découvert Ça a été annoncé en septembre 2011. C'est le système de Kepler-16. Alors, il est vraiment original parce que la planète ne tourne pas autour d'une étoile, mais d'un système binaire, d'une étoile, donc un système avec une étoile double, une étoile de type presque solaire et une petite naine rouge qui tourne autour de cette étoile primaire. Et la planète tourne autour des deux. Et voilà donc le système vu du haut. Vous avez les deux qui tournent là, et vous voyez, la gravité fait que celle-là tourne aussi. Hein. C'est l'ensemble qui tourne autour du centre de gravité, c'est toujours pareil. Et on a mesuré donc le passage de cette planète devant cette étoile-là, mais aussi devant cette étoile. On a mesuré le passage de la petite étoile devant la grosse, l'occultation de la petite derrière la grosse. On a mesuré tout ça, et on a même pu voir l'interaction gravitationnelle des uns avec des autres, justement en chronométrant le temps du passage. Et c'est donc un système extrêmement intéressant. Le premier système pour lequel on a des transits devant une planète autour d'un système binaire. C'est-à-dire pas une planète qui tourne autour d'une étoile qui appartient à un système binaire, mais une planète qui tourne autour du système binaire. Il y a un autre système du même type qui s'appelle Kepler-47 et qui est représenté sur cette petite animation. Vous avez une étoile double, pareil, l'une qui tourne autour de l'autre. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas une planète, mais deux qui tournent autour de l'étoile binaire. La première est une planète qui est un peu plus petite que Neptune. Et la deuxième planète, qui tourne en 300 jours autour de l'étoile, est un peu plus petite que Jupiter. Ce qui est intéressant dans ce système, c'est que la deuxième planète, Kepler-47c, c'est la deuxième, c, le A étant sous-entendu l'étoile, donc la Kepler-47b, la première, qui tourne là, en 50 jours, Kepler-47c, qui tourne en 300 jours, eh bien, en 300 jours, elle est suffisamment loin pour être dans ce que l'on appelle la zone habitable. La zone habitable, c'est la distance. C'est la zone qui se trouve à la bonne distance de l'étoile pour que s'il y a de l'eau liquide à la surface d'une planète, enfin de l'eau à la surface d'une planète solide, elle puisse être à la bonne température pour être liquide. Et comme on pense que l'eau liquide est essentielle à l'apparition de la vie, on pense que c'est les conditions nécessaires pour l'apparition de la vie à la surface d'une planète comme la Terre. Donc la zone habitable, c'est la bonne distance. Et voilà donc la zone habitable pour le système solaire, vous voyez, représenté en vert, la couleur de la vie, avec Mercure, je m'excuse, les noms sont en anglais, mais c'est Mercure, Vénus, la Terre et Mars dans le système solaire. Et vous voyez que Vénus est juste à l'intérieur de cette zone habitable. Et vous le savez, Vénus, la température de surface, 400 degrés avec un énorme effet de serre. Donc il fait très très chaud. Mars est juste à l'extérieur, mais encore à la bonne distance, et on pense que pendant plusieurs milliards d'années, il a pu y avoir de l'eau liquide à la surface de Mars. Et puis une autre planète qui m'a l'air particulièrement intéressante, puisqu'elle est solide, et à bonne distance du Soleil, puisqu'elle est là, et donc il peut y avoir de l'eau liquide à la surface de cette planète qui s'appelle la Terre. Et si vous n'êtes pas convaincu, bah, vous sortez, et puis... Encore 10 minutes, une dizaine. Ouais. Alors, cette zone habitable dépend, c'est la distance à laquelle il faut être, mais elle dépend du type de l'étoile. Si vous êtes autour d'une étoile comme le Soleil, c'est une certaine distance. Mais si vous êtes autour d'une étoile plus faible, rouge, une naine rouge, eh bien, il faut être plus près. Si vous êtes autour d'une étoile plus chaude, plus bleue, il faut être plus loin. Et ça, c'est extrêmement important, en particulier dans le cas du système GJ581. Et là, je vais vous présenter une planète qui me semble être une bonne cousine de la Terre. GJ581C et GJ581D. GJ581C a été annoncée en 2007. C'est une planète qui tourne en 13 jours. Elle est 14 fois plus près de son étoile que la Terre du Soleil. Vous dites, oh, bah, c'est à peu près. Oui, mais Ça tourne autour d'une étoile de petite masse qui brille peu. Et l'illumination que cette planète reçoit de l'étoile est équivalente à l'illumination que la Terre reçoit du Soleil. Donc on se dit, toutes les conditions sont favorables. Alors on a eu des vues d'artifice de cette planète, voilà. C'est un système multiple en fait, hein. Il y a d'autres planètes géantes gazeuses. Il s'agit d'une étoile naine rouge, on représente ici, et puis une petite planète, quelquefois 5-6 fois la masse de la Terre, voilà, donc solide. Pour l'astronome que je suis, c'est la seule chose que l'on connaît vraiment, c'est la taille approximative en fonction de la densité, enfin la masse que l'on mesure avec le déplacement de l'étoile, etc. Donc voilà, ça c'est la vision de l'astrophysicien, vous voyez, de cette planète, c'est une grosse boule bleue finalement, enfin une grosse boule, même pas bleue d'ailleurs, une grosse boule, on n'en sait pas plus. Et puis, quand elle a été annoncée, les gens ont tout de suite fait le calcul de la zone habitable autour de ce système, et vous voyez, donc en fonction de la masse, on a représenté la distance à laquelle il faut être pour avoir dans la zone bleue ici, pour la zone habitable. Là, c'est de l'eau liquide, c'est pas la vie, c'est pas le verre, mais bon, on l'a représenté en bleu. Et vous voyez la Terre, Vénus et Mars, mais si vous êtes sur une étoile, tournée autour d'une étoile moins massive, moins lumineuse, comme le système GLIS 581, eh bien, pouf, c'est plus proche, et ça pourrait être 581C. Et quand ça a été annoncé, tout de suite, les gens ont dit « Ah, super ! On a trouvé une planète dans la zone habitable de son étoile. Alléluia !» Et les artistes s'en sont donnés à cœur joie, les médias s'en sont donnés à cœur joie, et tout le monde s'emballe, etc. Et je me souviens encore, quand ça a été annoncé, on a dit « Oh là là, on a découvert une planète avec de l'eau liquide, etc. » Et ça a même donné des illustrations comme celle-ci. N'exagérons rien, parce qu'en plus, quelques mois après, les gens ont fait le calcul un peu plus sérieusement, puis ils ont réalisé que l'effet de serre est important pour ce genre de système. Le spectre de l'étoile est assez particulier. Et puis, si on tient compte de l'effet de serre, GLIS 581C est trop près. Il faut être plus loin avec l'effet de serre, parce que ça chauffe un peu quand même. Et puis, GLIS 580D qui pourrait convenir, parce qu'elle est aussi 5-6 fois la masse de la Terre, GLIS 580C est trop près et GLIS 581D est trop loin. Donc, il n'y a peut-être pas de planète dans la zone habitable de ce système. Et puis, on n'est pas prêt, jamais 203. Une équipe autour de François Forget a fait le calcul de l'effet de serre en tenant compte du fait que la planète est probablement synchronisée avec l'étoile. Et si on tient compte de ça pour cette planète-là, eh bien la zone habitable est peut-être encore un peu plus loin. Et il est bien possible que cette planète, tout au moins pour une partie de sa surface, soit dans la zone habitable et qu'il puisse y avoir de l'eau liquide. Puisque il me reste peu de temps, je vais vous parler rapidement d'un système dont vous avez entendu parler il y a quelques semaines, qui est le système autour de Alpha Centauri B. Alors, Alpha Centauri, vous voyez, c'est l'étoile qui est là. C'est une étoile très brillante, visible dans l'hémisphère sud. Une étoile, le système stellaire le plus proche de la Terre. Et donc, c'est une détection qui a été faite avec un télescope de l'ESO, donc au Chili. Avec ce télescope. C'est pas grave, on va voir l'animation, mais c'était une animation pour vous montrer l'ensemble du système. Et donc c'est un système multiple qui contient Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri, qui est une toute petite étoile, magnitude 11, même pas visible à l'œil nu, à quelques degrés dans le ciel de ce système binaire Alpha Centauri A et B. Et autour de cette étoile, donc le système stellaire le plus proche de la Terre, on a découvert une planète à peu près une fois la masse de la Terre, alors qui tourne très très proche de son étoile. C'est sans doute une planète un peu comme les planètes résidues qu'on a vues tout à l'heure, très chaude. Mais un système extrêmement intéressant parce que on sait que quand il y a des petites planètes très proches de l'étoile, souvent, quand on continue les mesures, on détecte des planètes un peu plus loin. Et donc on imagine qu'autour de cette étoile, il doit y avoir des petites planètes plus loin, et peut-être même dans la zone habitable. En tout cas, c'est un système que l'on continue de suivre. La découverte a été annoncée il y a quelques semaines. Et donc, on continue de le suivre en espérant détecter dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, des planètes plus loin, peut-être dans la zone habitable. Alors, je vous ai promis aussi de parler de l'atmosphère des exoplanètes, puisque c'est le sujet sur lequel je travaille. Je vous ai dit au début, on utilise des astuces pour observer les atmosphères de ces exoplanètes. En fait, on utilise l'observation de la planète quand elle passe devant ou derrière l'étoile. Quand elle passe derrière, on observe en infrarouge, parce que en infrarouge, l'étoile est moins brillante, et la planète, si elle est proche de l'étoile, elle est chauffée, elle est plus brillante. Vous savez, les objets chauds rayonnent en infrarouge. Et donc, là, c'est le contraste en visible. En infrarouge, eh ben, l'étoile est moins brillante, la planète plus brillante, le contraste est plus faible, et on observe le système, les systèmes non pas vus du dessus, mais les systèmes vus par la tranche, quand la planète transite devant l'étoile. Et en fait, on ne l'observe pas quand elle transite devant, mais quand elle passe derrière. Et quand elle passe derrière, eh bien, la lumière émise par la planète disparaît. Et on mesure donc la quantité de lumière émise par la planète en attendant qu'elle passe derrière. Et la baisse de lumière en infrarouge vous donne la quantité de lumière émise par la planète en infrarouge. On fait cette mesure à différentes longueurs d'onde, ici à 3 microns, 4 microns, etc. Donc différentes couleurs de l'infrarouge, on pourrait dire. Et vous voyez, donc ça, c'est des courbes pour cette planète célèbre qui a été découverte à l'Observatoire de Haute-Provence, d'ailleurs, par François Bouchy. Et on mesure donc la quantité de lumière émise à 3 microns, 4 microns, etc. On peut même tracer un diagramme de la quantité en fonction de la lumière et faire ce qu'on appelle un spectre, finalement un spectre d'émission de la planète. Et on peut, en ajustant ces mesures, vous voyez, avec les courbes vertes, bleues, rouges, comme je l'expliquais tout à l'heure, en comparant un modèle avec l'observation, on peut dire, bah, tiens, est-ce qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Et on pense qu'on détecte ici la molécule d'eau et la molécule de CO. Il y a une autre façon, qui est une autre méthode qui est utilisée pour observer les atmosphères. C'est pas quand la planète passe derrière, mais c'est quand la planète passe devant. Et quand la planète passe devant, une partie de la lumière de l'étoile traverse les couches atmosphériques, une très fine couche atmosphérique de la planète. Et donc, si on analyse la lumière de l'étoile quand elle passe devant, on peut espérer détecter des signatures de l'atmosphère de cette planète. C'est une méthode que vous connaissez déjà. Il y a une atmosphère d'une planète que vous avez l'habitude d'observer à travers, en utilisant la lumière de l'étoile autour de laquelle cette planète tourne. C'est quelque chose que vous faites presque tous les jours quand vous regardez un coucher de soleil. Quand vous regardez un coucher de soleil, eh bien, vous voyez l'atmosphère de la Terre détectée, observée, en utilisant la lumière de l'étoile. Et vous voyez que c'est rouge parce que l'atmosphère absorbe le bleu et le diffuse dans l'air, ce qui fait d'ailleurs le ciel bleu. Et elle laisse passer que le rouge. C'est ce qu'on va faire avec les planètes extrasolaires. On les observe et on voit, en fonction des différentes couleurs, combien de lumière passe. Et en fait, on mesure la taille apparente de la planète à différentes longueurs d'onde, à différentes couleurs. On fait ce qu'on appelle la spectroscopie de la lumière de l'étoile absorbée par l'atmosphère de la planète. On a fait ces observations, par exemple, pour cette planète, toujours la même, HD 189-733b, et on a pu voir que, vous voyez, entre le bleu et le rouge, il y avait beaucoup plus d'absorption dans le bleu que dans le rouge, exactement comme pour l'atmosphère de la Terre. D'ailleurs, c'est la diffusion Rayleigh, c'est le même mécanisme physique, et ça nous a permis de déterminer la température. 1300 Kelvin, 1300, donc ça fait à peu près 1000 degrés Celsius. Alors on a dit, bah tiens, c'est une autre planète bleue, donc c'est une planète géante gazeuse, mais probablement d'apparence bleue, avec des reflets bleus sur cette vue. Et on a même imaginé un lever de soleil vu de cette planète. Voilà, regardez le soleil qui se lève. C'est rouge, évidemment. Quand on est très haut dans le ciel, c'est beaucoup plus blanc. Et la planète, vue de loin, doit être bleutée, puisque c'est la lumière diffusée par la diffusion Rayleigh à l'intérieur de cette atmosphère. Je vais terminer avec une dernière atmosphère que nous avons sondée en grand détail en utilisant le télescope spatial Hubble. Nous avons exactement utilisé le même processus. Nous avons observé le passage de la planète devant l'étoile et obtenu le spectre entre le bleu et le rouge, entre 300 et 750 nanomètres. Et voilà, en fait, c'est les marches d'escalier que vous voyez là. Donc les mesures sont pas très nettes, hein. C'est difficile. Mais réalisez que nous sommes en train d'observer l'atmosphère d'une planète à 150 années-lumière, une planète que nous n'avons jamais vue. On sait simplement qu'elle fait bouger l'étoile et que quand elle passe devant, on reçoit moins de lumière de l'étoile. Donc on n'a pas vraiment vu la planète elle-même, mais on a vu la signature de son atmosphère dans la lumière de l'étoile que nous analysons, et c'est ce qu'on voit ici, en fonction de la longueur d'onde. Et en fait, on voit dans ce genre de spectre énormément de choses. Par exemple, ici, on est capable de dire que c'est la diffusion Rayleigh par la molécule d'hydrogène. Ça nous donne la température, 2000 degrés. Ici, dans le jaune, c'est le sodium. C'est le même jaune que les lampes du carrefour d'Enfer Rochereau. C'est le même sodium. Et donc, on a une absorption dans le jaune qui est due au sodium. Et là, on a une absorption qui est probablement due à des molécules d'oxyde de titanium et d'oxyde de vanadium. Enfin, vous voyez, donc, énormément d'informations dans un spectre de l'atmosphère d'une exoplanète que je n'ai pas le temps de vous décrire ce soir, mais je me suis dit, résumer tout ça, il y a une façon très simple. Un spectre d'absorption, on connaît les propriétés optiques de cette atmosphère, et donc on peut calculer les couleurs du ciel de cette planète et les couleurs de l'étoile vue à travers l'atmosphère. Donc imaginez un coucher d'étoile vu de cette planète. D'ailleurs, à la sortie, je pense qu'on va vendre des tickets pour aller voir ce coucher de soleil, parce que vous allez voir, c'est magnifique. Et donc je vais créer mon entreprise pour vendre un vol habité auprès de cette étoile, cette planète, pour vous permettre d'aller admirer le coucher de soleil de cette planète, enfin vue de cette planète. Alors il faut que je vous prévienne avant que vous partiez pour le voyage. Il s'agit d'une planète géante gazeuse, pas d'une planète solide. Donc la vue sera à partir d'un ballon. Donc nous volerons dans un ballon. Comme la planète est sans doute synchronisée, vu d'un endroit particulier de cette planète, le Soleil ne bouge jamais. Il bouge que si nous nous déplaçons, donc nous prendrons un vol plutôt dirigeable, où nous utiliserons les vents. On a mesuré les vents sur cette planète à 2 km par seconde, donc on est même capable de mesurer les vents sur cette planète. Donc on utiliserons les vents pour nous déplacer du côté jour vers le côté nuit. Et vous allez avoir donc le spectacle sur lequel je vais clore cette conférence. Voilà les couleurs du ciel. Vous allez voir, c'est très surprenant. C'est pas du tout une planète pour laquelle l'atmosphère est bleue. Enfin, le ciel est bleu et le coucher de soleil est rouge. C'est presque l'inverse. C'est un ciel pourpre, un coucher de soleil cyan vert. Et je vais donc terminer par cette petite animation qui, je le précise, est un véritable calcul des véritables couleurs telles qu'elles sont perçues avec les propriétés physiologiques des trois cônes de couleurs de l'œil, le cône bleu, vert et rouge. Donc c'est un véritable calcul physique des couleurs telles que nous percevrions si nous allions là-bas, volant dans un ballon. Et donc je vais terminer en vous laissant admirer en silence ce coucher d'étoiles d'une exoplanète. 150 années-lumière. Bonne nuit.
bien. Bah, avant d'aller s'assoupir sur cette planète, peut-être vous avez encore quelques questions pour vous rassurer ou pour plus de précision.
Merci pour cette conférence très intéressante. Vers quelle époque on pourrait avoir des raies un peu plus précises, du genre, je ne sais pas moi, la raie de la chlérophylle, par exemple, avec quels moyens et à quelle échéance?
Alors, la raie de la chlérophylle, je ne sais pas vraiment, mais il y a quand même des projets pour détecter des raies qui semblent extrêmement intéressantes, par exemple, c'est la raie d'oxygène ou de l'ozone. Parce que sur Terre, s'il y a de l'oxygène, c'est parce que l'oxygène est produit par quelque chose, la synthèse chlorophyllienne. Une atmosphère riche en oxygène oxyde tout ce qui lui passe sur le chemin, et donc l'oxygène disparaît. Si sur Terre, nous avons de l'oxygène, c'est parce qu'il y a un processus complètement fou que l'on appelle la vie. Si nous détectons ce processus sur une planète, une exoplanète, on pourra dire qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que ça sera la vie ou pas, on en débattra. Donc il y a vraiment énormément de recherches sur les moyens qu'il faut développer pour détecter, par exemple, la signature de l'oxygène. Alors, c'est pas facile quand même. Et les projets qui sont développés actuellement sont d'abord des projets pour détecter plus de des planètes plus faciles à observer. Par exemple, des transits devant des étoiles brillantes ou des planètes autour d'étoiles proches qui sont plus faciles à observer. Donc il y a des projets qui sont proposés, par exemple le projet Plateau qui est proposé à l'Agence spatiale européenne. Et l'Agence spatiale européenne va décider de le faire ou de ne pas le faire d'ici fin 2013. Si elle décide de le faire, ça sera fait en milieu des années, donc 2025, quelque chose comme ça. Après, une fois qu'on a ça, il faut observer ces systèmes. On les a détectés, on dit tiens, c'est vraiment intéressant. Alors là, c'est pour un peu plus tard. Peut-être que des observatoires comme le James Webb Space Telescope, le JWST, qui est un télescope qui remplacera Hubble, mais qui est plus grand, qui observera donc avec un miroir de 6 mètres et qui aura des détecteurs en infrarouge assez performants, peut-être ça permettra de faire des choses intéressantes. Il y a un projet, entre autres, qui est porté par des chercheurs de l'IAP, qui s'appelle ECHO, qui est un plus petit télescope, mais dédié à l'observation des atmosphères. Donc, et là, à nouveau, typiquement dans les années 2025, quelque chose comme ça. Et vraiment détecté de façon bien caractérisée, etc., peut-être qu'il faudra faire appel à de l'interférométrie, c'est-à-dire utiliser plusieurs télescopes qui volent en formation. Alors, je n'ai pas précisé tout ça, c'est des missions spatiales. Parce qu'évidemment, observer à partir de la Terre, il y a l'atmosphère de la Terre, et on arrive à le faire, hein, c'est vrai, on arrive à corriger les perturbations provoquées par l'atmosphère de la Terre, mais c'est vraiment difficile. Alors en plus, si on cherche la signature de l'oxygène, il y a de l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre, donc c'est compliqué. Donc le mieux, c'est d'aller dans l'espace. Et donc l'idée, ce serait de faire interférer plusieurs télescopes qui volent en formation dans l'espace. Et alors là, c'est des projets pour encore plus tard, les années 2030-2040. Voilà ce que l'on peut anticiper pour les quelques dizaines d'années qui viennent. Ceci dit, ça peut vous sembler loin, 2030-2040, mais c'est pas si loin que ça. Et je crois que quand on parle de rechercher la vie, on a l'impression qu'on parle de science-fiction. On se dit, oh là, bon, on fait de la vraie science, pas de la science-fiction. Rechercher la vie, c'est bon pour les ovnis et les gens un peu farfelus, etc. Non. Aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui travaillent sur le développement de l'instrumentation, des techniques d'observation qu'il faut pour détecter des signatures de la vie dans ces exoplanètes. Et c'est pour... avec James Webb télescope, c'est la fin de la décennie. Donc peut-être dans 10 ans, on aura des signatures de choses extrêmement intéressantes.
Et vivantes.
Et peut-être vivantes.
Les extraterrestres dans la salle doivent bien rigoler, à mon avis. Bon, il y en a sûrement. Et on ne le sait pas. Ouais. Et l'alcool
Signature de l'alcool, oui, je ne sais pas. Ouais.
Je
ne
sais pas.
Mais je ne suis pas amateur d'alcool. Donc.
Il y en a dans le milieu interstellaire.
Oui, c'est ça.
Trace d'alcool. Ça ne signifie pas la vie pour autant. Alors, j'avais une petite question à poser Concernant l'imagerie, bon, tu n'as pas montré, mais il y a effectivement quelques images. Pourquoi, à quelle distance se situe le pulsar autour duquel on a trouvé?
Il est loin, c'est quelques, un millier de parsecs ou quelque chose comme ça.
Oui,
donc, c'est loin.
Parce que, a priori, ce serait un endroit idéal pour faire de l'imagerie, parce qu'on n'est pas gêné par l'étoile.
Oui, mais il faut de l'émission de la planète. Et dans le cas du pulsar, si la planète n'est pas chauffée ou n'a pas de lumière à réfléchir, il n'y a pas beaucoup d'émissions de la planète qui permettent de faire une image.
Infrarouge,
oui, donc j'ai choisi de ne pas vous montrer les quelques images, c'est vrai, d'exoplanètes que l'on dispose, c'est-à-dire des points brillants comme ça, par exemple autour de Beta Pictoris. Enfin, je pourrais même en parler pendant toute la conférence. Hein, donc, bon, faut faire des choix. En fait, ce sont quelques points brillants, et il faut savoir aussi que pour les deux systèmes pour lesquels c'est vraiment identifié et confirmé. Betapic et puis HR8799, et bien pour ces deux systèmes, on peut voir les planètes parce qu'elles sont jeunes. Elles sont encore chaudes et elles émettent encore de l'infrarouge. Pour une planète comme la Terre ou même Jupiter autour du Soleil, on n'est pas capable aujourd'hui de faire une image dans le sens voir un point brillant. On peut le faire que dans les cas des systèmes très jeunes.
Monsieur.
Ah, vous voulez vous
pourrez
revoir,
repasser la
bien
dernière
sûr.
Animation, voilà.
Bien sûr.
J'ai une question. Et une question, pourquoi il n'y a pas eu dans le système solaire de migration Jupiter, c'est pas une Jupiter chaud?
Oui, c'est une question qui nous taraude encore un peu. Parce que c'est vrai que dès qu'on a détecté au milieu des années 90 ces Jupiter chauds, on s'est dit, au début on a dit, comment ça se fait? Et puis très rapidement, quelques mois après, les théoriciens de la formation des systèmes solaires ont sorti de leur tiroir, ah oui, mais on avait oublié les migrations. Donc ils ont sorti ça, ils ont mis ça. On a dit, mais vous ne l'aviez pas sorti quand on parlait du système solaire, comment ça se fait? Si le mécanisme, le phénomène a lieu pour les planètes qui forment les Jupiter chauds, il devrait avoir lieu aussi dans le système solaire. Et ça, c'est resté un problème non résolu pendant de très très nombreuses années, et même aujourd'hui, on ne le résout pas très 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 bien. La solution qui est proposée, c'est qu'en fait, les migrations sont efficaces quand il y a surtout une planète géante massive qui se forme. Dans le système solaire, il y a Jupiter et Saturne. Et dans le cas de plusieurs planètes, les interactions avec le disque sont différentes, et on peut même avoir des cas où la planète s'éloigne de l'étoile. Donc, on résout le paradoxe en faisant interagir non pas une seule planète avec le disque, mais plusieurs planètes avec le disque.
Alors là, on touche à une difficulté inhérente à la science. Hein, c'est qu'on a toujours un moyen quand même de reproduire un fait scientifique. On n'est jamais sûr que ce soit la seule réponse possible. Hein.
C'est vrai.
Et c'est comme ça. Il faudra accumuler les évidences, les preuves expérimentales pour se faire une idée.
C'est vrai jusqu'à preuve du contraire.
Voilà, c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. C'est comme ça. J'avais une question là-bas.
Bonsoir, monsieur. Je vais oser vous poser une question qui est très vraisemblablement très basique. Mais peu importe, ce sera un rappel peut-être utile pour moi en tout cas. Pourquoi, à commencer par la Terre elle-même, les planètes du système solaire et même au-delà, comme vous l'avez traité ce soir, on se trouve en présence d'objets dans l'univers qui ont une forme de quasi-sphéricité, de sphéricité ou de quasi-sphéricité. Alors, devant une telle permanence, d'après moi-même, dans le temps et dans l'espace, c'est que ça n'est pas aléatoire, c'est qu'il y a des lois. Ces lois sont peut-être évidentes et fondamentales, bien qu'il y ait des exceptions, puisque je crois savoir que les astéroïdes, par exemple, ont des formes qui sont dues, elles, aux lois aléatoires. Alors pourquoi cette sphéricité devant laquelle on se trouve, ou quasi-sphéricité, hein, s'il vous plaît?
Ne vous excusez pas, c'est vraiment une excellente question. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite coup de pub pour ce livre, parce que dans ce livre, on traite la planète extrasolaire, etc., mais j'ai choisi d'aborder exactement ce type de questions, les questions que les enfants peuvent se poser, et comme vous l'avez fait avec on voit quelque chose, on se dit, mais il doit bien avoir une raison. Par exemple, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi la Terre tourne, et des questions qui paraissent toutes bêtes, que les enfants posent. Et puis finalement, si on interroge ces problématiques, on réalise que ça fait vraiment, ça fait apprendre énormément de choses. Et cette question de la sphéricité des planètes, vraiment, je crois que c'est une question extrêmement intéressante et qui peut faire l'objet de, pourrait faire même l'objet d'un livre en soi, hein, parce que on pourrait élaborer énormément. Mais pour résumer, je ne vais pas vous faire le contenu d'un livre pour répondre à votre question. Pour résumer, une planète est une sphère parce que c'est la structure la plus stable quand on a quelque chose qui est malléable. Si vous prenez une boule une boule de neige, par exemple, vous agglomérez, vous voyez, des morceaux de neige, et puis que vous tassez, et dans le cas des planètes, ce qui tasse, c'est la gravitation de l'objet sur lui-même, eh ben, naturellement, vous allez former une boule. Les enfants jouent aux boules de neige, ils ne jouent pas au carré de neige, au cube de neige. C'est vrai, hein, ça me paraît évident que les gens ne jouent pas au cube de neige, mais ça veut dire quelque chose profondément. Et c'est parce qu'ils tassent la neige et que la sphère, pour une quantité de matière donnée, est l'objet le plus tassé. Alors, et en plus, vous faites une excellente remarque en disant « Ah, mais tout est sphérique sauf les astéroïdes ». Eh bien oui, justement, c'est une excellente remarque. Les astéroïdes, eux, sont moins massifs et l'intérieur, la gravité, la pression qui s'exerce à l'intérieur qui fait que ça devient même liquide à l'intérieur avec les forces de pression au moment de la formation, eh bien, sont pas suffisantes. Et donc, c'est une des propriétés des astéroïdes de garder la forme de l'accumulation des cailloux qui l'ont formé, en quelque sorte. Et donc, par contre, si vous dépassez une masse, et le rayon typique le diamètre typique d'un astéroïde à partir duquel il devient sphérique, c'est 500 km. Un astéroïde comme Cérès, c'est sphérique, parce que ça dépasse les 500 km. C'est assez massif pour qu'à l'intérieur, ça soit malléable. La pression de la gravitation qui s'exerce à cause de la gravitation devient assez importante pour que ça devienne malléable et que ça prenne la forme la plus stable, la plus stable.
La résultante de la plus parfaite.
Oui, dans le sens où, pour une masse donnée, c'est là que vous avez le moins de surface, le moins de distance par rapport au centre. Et après, il y aura une autre question, mais je ne vais pas donner la réponse. Dans l'univers, il y a deux types d'objets. Et ça sera une interrogation pour ceux qui partiront en réfléchissant. Il y a deux types d'objets dans l'univers. Il y a les objets sphériques et les objets plats. Les objets sphériques, comme les planètes, les étoiles, les galaxies elliptiques ou naines, les grosses galaxies comme ça. Et il y a les objets plats, les anneaux de Saturne, les disques protoplanétaires dans lesquels les planètes se forment, les disques galactiques, galaxies spirales, comme la galaxie dans laquelle nous sommes. Donc il y a vraiment deux familles d'objets. Et donc le sujet de l'interrogation, c'est pourquoi ces deux familles d'objets. Mais je ne donnerai pas la réponse.
Oui, pour ce qui me concerne, j'ai beaucoup rêvé cette magnifique conférence. Et j'ai appris une chose curieuse sur les planètes chtoniennes. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus, parce que j'arrive pas à voir. Alors, ce serait comme un noyau de Jupiter qui serait évaporé ou...
Oui.
J'aimerais savoir un peu plus qu'est-ce que c'est que ce.
Alors, l'idée est la suivante. Engin. Pour former une planète géante gazeuse, la première chose qu'il faut former, le fœtus d'une planète géante gazeuse, c'est une planète solide qui fait environ une dizaine de fois la masse de la Terre. Parce que le gaz ne peut s'agglomérer par gravité que s'il y a quelque chose qui le tient. Un nuage de gaz tout seul, sauf s'il fait une certaine masse, masse de Chine, etc. Mais la masse de Jupiter, vous prenez un nuage de gaz de la masse de Jupiter, ça ne forme pas Jupiter. Pour former Jupiter, il faut d'abord un noyau, dans le sens même presque... ça forme le cœur, d'ailleurs on dit des fois aussi le cœur, forme le cœur qui est solide,
Et il faut qu'il atteigne une masse critique suffisante pour attirer tout le gaz qui est autour. Donc, toutes les planètes géantes gazeuses, on imagine dans ce mécanisme de formation, doivent avoir un cœur de matériaux solides, des métaux, des roches, etc., qui fait une dizaine de fois la masse de la Terre. Et maintenant, si on approche ce planète géante gazeuse de l'étoile, ce qui va s'échapper, c'est le gaz, et il va rester le résidu, qui sera donc une dizaine de fois la masse de la Terre, contiendra essentiellement des métaux, peut-être de l'eau, mais des matériaux qui ne sont pas de l'hydrogène et de l'hélium. Pour l'instant, on connaît quelques planètes qui répondent aux propriétés que l'on attend de ces planètes, mais on n'a pas la preuve qu'elles se sont formées comme ça. Donc c'est encore un objet de débat et de recherche.
Any questions? D'autres questions? Voilà. Non? Bon, donc merci encore, je vous remercie. Et merci Alain.